Chapitre 20. Dernier chapitre. Calendrier organique en 589. Foudre n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. C'étaient les larmes contenues de toutes les dernières années qui se déversaient torrentielles à travers ses yeux brûlés. Elle pleurait les âmes de la sonde qui avait explosé dans le ciel et s'était répandue en étincelles scintillantes sur le noir de la nuit. Elle pleurait le clan qu'elle avait perdu et le lien si fort qu'il avait tenu à elle par toutes les fibres de ses nerfs. Elle pleurait l'enfance de l'organe qui s'était terminée dans cette gerbe de feu. Elle pleurait Michael Strauss, dont la simple évocation faisait redoubler ses larmes et pour qui elle ressentait, dans tout ce vide, une tendresse douloureuse et obsédante. Ses larmes défiguraient son visage et modifiaient le paysage de son cœur, creusant des sillons, des vallées, des crevasses profondes. Toute cette eau qui la quittait la laisserait aride et sèche comme une terre brûlée. Pourtant, tout au fond de ces ténèbres d'eau où elle se noyait, quelque chose de nouveau répandait une faible lueur. C'était comme si pluie était en elle et contemplait avec elle son cœur dévasté, comme si elle lui insufflait du courage en comprenant chacun des accidents qui l'avaient secoué. Elle n'allégeait pas la charge, non, mais elle aidait à trouver son centre de gravité. Foudre n'avait pas envie de parler à qui que ce soit et se laissait faire sans prononcer une parole. On appliquait sur ses tatouages un baume de feu qui briserait les liens. Elle pouvait ressentir déjà les présences des membres de son clan qui s'échappaient d'elle comme des souvenirs que l'on perd. Il lui semblait que chaque larme emportait un peu de son clan avec elle et que lorsqu'elle aurait fini de les verser, elle ne connaîtrait plus le nom, ni le visage, ni le cœur de tous ceux qu'elle avait soutenus et aimés. Elle ne savait pas si ce travail d'oubli était accompli par l'onguent brûlant ou par ses larmes, l'eau et le feu se mélangeaient dans cette étrange destruction psychique. Tout son clan était présent et observait cette douloureuse opération avec une tristesse infinie. Ce qu'il ressentait, personne ne le prenait plus en charge, et il faudrait qu'il fasse tout seul le deuil de cette présence tutélaire qui les avait soignés et épaulés comme un ange invisible. Il ne l'aimait pas comme une femme de leur famille ou une proche, car elle ne leur avait jamais parlé d'elle, et ils ignoraient tout de sa vie intérieure. Leur amour pour elle avait quelque chose de symbolique et d'abstrait, et la tristesse qu'il ressentait était elle aussi en quelque sorte abstraite. Il savait qu'un autre lien remplacerait celui-ci, mais les qualités de Foudre leur apparaissaient aujourd'hui comme irremplaçables. Elle était courageuse, forte, intelligente, bienveillante et sage. Toutes les clés ne l'étaient pas autant. Pluie, quant à elle, faisait face à une douleur clanique si aiguë dans sa langue qu'elle crut d'abord ne pas arriver à la supporter. Puis, au fil des heures, elle s'était habituée. Sa langue, l'un des derniers organes silencieux de son corps, était maintenant lié à l'une de ses filles les plus sensibles, car Pluie considérait tous les membres de son clan comme ses enfants. La douleur de Foudre était intense. Elle n'avait pas d'équivalent dans la vie habituelle des hommes et des femmes de l'organe. Mais Pluie savait que Foudre était aussi d'une force peu commune et qu'elle se remettrait. Ne lui avait-elle pas promis un goût de miel sur sa langue lorsqu'elle irait mieux? Pour l'instant cependant, la pauvre petite se laissait aller à une totale passivité. Elle, d'ordinaire si active, si sûre d'elle, si présente, ne montrait plus la moindre initiative. Après la transe, on avait disposé de son corps épuisé, on l'avait couché, puis levé, puis nourri, et on était maintenant en train d'oindre son corps nu, tout entier veiné des nervures bleues de ses tatouages. Ses larmes, qui coulaient sans relâche, l'aveuglaient, et faisaient entre elle et le monde un rideau impénétrable. Pluie s'approcha d'elle, et s'assit près d'elle. La présence du clan était si silencieuse que la vieille femme parvenait presque à l'oublier. « Je suis là. » murmura-t-elle en prenant la main de la jeune fille. Foudre dirigea son visage vers elle. « Merci, » dit-elle. « Ta vie ne s'arrête pas là, Foudre. Il y aura un lendemain. » « Je sais. » Puis sa tête se tourna de l'autre côté, et Pluie contempla un moment fasciné le ruisseau de larmes qui sourdait, intarissable, Ce ruisseau la rendait comme minérale. Ses paupières gonflées et grises ressemblaient presque à des rochers obstruant le jaillissement d'une source. Pluie soupira. Il y avait peu d'exemples de clés qui eussent renoncé volontairement à leur clan. La plupart des clés destituées étaient, comme Soleil, punies pour leur comportement. Mais toutes les clés qui avaient dû abandonner leurs fonctions avaient connu les plus grandes difficultés. Le chemin que Foudre avait choisi était celui du sacrifice. Elles le savaient, toutes les deux. Quel lendemain cette petite aurait-elle? Dans le clan de la pluie, on lui trouverait une maison, un travail, et au bout de quelques mois, de quelques années peut-être, elle serait capable de vivre une vie normale. Mais en attendant, il lui faudrait se réadapter à tout. Pluie s'imagina elle-même, devant retourner parmi les hommes, non pas en tant que clé, mais en tant que simple membre d'un clan. Cela lui paraissait presque inconcevable, car elle avait intégré depuis tant d'années la distance particulière entre le clan et la clé, qu'elle avait tout oublié des relations simples, directes, qui avaient mûri son enfance. Elle n'était à égalité qu'avec les autres clés. Elle aimait leur hauteur de vue, leur distance par rapport aux souffrances et aux problèmes individuels. Elle aimait leur retrait du monde, leur solitude. L'existence des clés aiguisait certaines de leurs qualités, et c'était justement ces qualités qu'elle avait appris à apprécier particulièrement. Elle le savait, elle serait malheureuse de devoir retourner au milieu de ceux de son clan. Comme si un adulte était condamné à vivre uniquement avec des enfants, du matin au soir et du soir au matin, sans jamais avoir la possibilité de parler avec un autre adulte. Mais Foudre était jeune. Ses habitudes n'avaient pas encore modelé irrémédiablement son corps et son esprit. L'enfance n'était pas loin derrière elle, et elle pourrait peut-être encore y puiser. Le moment de la bifurcation, où elle avait choisi d'être clé, n'était pas si loin. Peut-être pouvait-elle encore retourner en arrière et chercher ce qu'elle serait devenue si elle avait suivi l'autre voie. Quelque chose cependant lui disait que Foudre ne se satisferait pas de cela. Elle était solitaire, et elle commandait aussi naturellement qu'elle respirait. La vie simple ne lui suffirait pas, ne lui suffirait jamais. Ce qui faisait le bonheur des autres ne serait jamais assez pour étancher sa soif. Et lorsqu'elle aurait fini de pleurer, lorsque toute l'eau du monde serait sortie de son corps, sa soif serait encore plus ardente. Michael fut réveillé en sursaut par le bruit formidable de l'explosion. Il crut littéralement que le ciel se brisait en mille morceaux et qu'il allait tomber sur le monde. La terreur animale qu'il éprouva mit longtemps à céder la place à une forme de pensée. D'abord, il reprit conscience de son corps et de son environnement immédiat, et des bribes de souvenirs directement liées à sa situation lui revinrent. Il avait quitté la sonde à bord de l'annexe, aidé par Philippe Reda, et dans les lueurs incertaines de cette aube striée de déchirures de feu, il distingua autour de lui le lieu où il avait atterri. Il se trouvait sur une éminence, à 200 ou 300 mètres de hauteur, et l'annexe était accidentée. Philippe Reda ne devait pas avoir pris en compte cette colline dans la trajectoire, et l'annexe avait dû percuter le sol à une vitesse bien supérieure à celle de l'atterrissage. Michael était toujours attaché à son siège, et voyait à travers le hublot un horizon penché qui traçait une ligne entre le ciel oblique, incendié de météores, et le sol noir. Il se détacha, et lorsqu'il voulut essayer de se lever dans l'habitacle effondré, il céda à une douleur intense au niveau de sa jambe. Fracturé, sans aucun doute, il était hors de question de marcher dans cet état. Il essaya d'ouvrir la portière, qui était bloquée, et entreprit une reptation difficile parmi les décombres pour en trouver une qui s'ouvrit. Avec des gémissements de douleur que personne ne pouvait entendre, il parvint à s'extirper de l'annexe et à s'éloigner un peu. L'annexe était tombée sur une sorte de plateau, et il put sans trop d'effort s'éloigner d'une dizaine de mètres. Si, pour une raison ou pour une autre, l'annexe explosait, il serait probablement hors de danger. Il s'allongea, pris d'une soudaine et intense fatigue, et perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla la seconde fois, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il n'essaya pas de se relever. Son esprit, il le sentait, avait déserté les sentiers de la logique et dérivait dans une rêverie étrange. Une fumée noire qui dessinait à haute altitude des volutes sinistres était tout ce qui restait de la sonde. Michael resta les yeux fixés sur cette fumée, hébété, pendant de longues minutes. L'élégant vaisseau, capable de traverser les mondes, cette structure solide, insensible aux tempêtes solaires, résistante au vide, au froid glacial, aux pluies d'astéroïdes, s'était dissoute dans une simple combustion. Toutes ces molécules, tous ces atomes élémentaires, dispersés. Il ne restait de sa complexe et merveilleuse organisation matérielle qu'une fumée. Il se sentait un peu nu sans ce vaisseau dans le ciel. Il comprit que l'univers venait de se rétrécir d'un seul coup. Il n'existait plus pour lui maintenant, dans sa vie humaine, ni d'autres systèmes stellaires, ni d'autres horizons. Il était sur l'organe, il mourrait sur l'organe, et ses yeux ne se poseraient jamais plus sur le monde autrement qu'à hauteur d'homme. Les nébuleuses, les lunes, les planètes diverses aux couleurs irréelles, nimbées de vives clartés sur fond de nuit spatiale, toutes ces images appartenaient maintenant à ses souvenirs. Il s'endormit à nouveau, bercé de visions. La troisième fois qu'il ouvrit les yeux, le soleil avait dépassé le zénith et il ressentit cruellement la soif, la faim, la douleur et le froid. Ces sensations désagréables le ramenèrent à une forme de lucidité et son premier réflexe fut de s'asseoir. Après avoir constaté que la marche lui était interdite, il s'adossa à un rocher et regarda autour de lui. L'annexe n'avait pas explosé, mais semblait en mauvais état. Il trouverait cependant à l'intérieur, peut-être, une forme d'abri, une couverture de survie et quelques vivres lyophilisés. Cela faisait partie de l'équipement obligatoire. Il se traîna douloureusement jusque-là, et il mit dans la couverture de survie tout ce qu'il trouva d'utile et qui se résumait à peu de choses, 2 litres de liquide nutritif, une lampe torche, un transistor. À quoi pouvait donc bien lui servir un transistor sur une planète qui ne connaissait pas l'électricité? Une idée jaillit dans sa tête, au moment même où il laissait résolument le transistor. Où se trouvait le petit transmetteur que Reda lui avait montré et donné pendant la nuit? Il chercha dans ses poches, fébrilement, mais ne le trouva pas. Puis, au prix de douleurs très vives à la jambe, il se glissa à nouveau dans le siège où il s'était trouvé et fouilla le sol. Il finit par le trouver, et les mains tremblantes, ignorant sa douleur, sa faim, sa soif, il essaya de l'allumer. Il fonctionnait encore. Il le posa avec le reste dans la couverture, qu'il traîna péniblement jusqu'à son rocher. Il avala la moitié du premier litre de liquide nutritif et se sentit un peu rasséréné. Puis il se cala contre le rocher, sous la couverture, et se mit à écrire un message. « Foudre, je me suis échappé de la sonde. J'ai atterri sur l'organe, mais je suis blessé et incapable de marcher. » Michael s'arrêta un moment et réfléchit. Cette information ne servirait à rien d'autre qu'à désespérer la jeune femme. Elle ne disposerait d'aucun radar, d'aucun véhicule de reconnaissance, d'aucun des moyens habituels pour une mission de secours. Il devait lui décrire le plus précisément ce qu'il voyait. « Je suis sur une colline, à environ 200 ou 300 mètres de hauteur. À l'ouest et au sud, je ne vois que de la forêt à perte de vue, mais au nord, je vois une chaîne de montagnes, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance. À l'est, au loin, il me semble que j'aperçois la mer. Dans la forêt, il y a une rivière qui coule, probablement vers l'est, car elle continue en direction de la mer. Il n'y a pas d'autre colline identique à celle où je me trouve, je pense qu'il s'agit d'une colline isolée. » Il envoya le message et soupira. « Demandez de l'aide à Michèle Touré. Elle connaît la géographie de l'organe comme sa poche. » La rédaction de ce message, dans lequel résidaient ses seules chances de survie, l'avait épuisé. La douce chaleur de la couverture de survie et le bien-être dû au liquide nutritif dans son estomac lui donnèrent envie de dormir et Michael, à nouveau, sombra dans le sommeil. Cette fois, il fit un rêve. Le capitaine Richards, Michael et la vieille femme de l'organe, celle que Foudre appelait Pluie, se trouvaient dans un vaisseau somptueux, à l'atmosphère humide. Michael s'étonnait de constater qu'un arbre semblait avoir poussé au milieu de la salle et que ses plus hautes branches traversaient le plafond. Il était en visite, comme le capitaine Richards, et ce vaisseau, qui s'appelait le Covadis, était le vaisseau de Pluie, Il se trouvait en orbite sur l'organe, mais à une altitude très basse, comme si le vaisseau était en orbite à l'intérieur de l'atmosphère. Les vues qui se déroulaient par la fenêtre ne ressemblaient en rien à ce que Michael avait vu de l'organe. En vérité, la planète ressemblait à un désert, tantôt volcanique et sulfureux, tantôt semblable à un désert de sable. Des cadavres d'animaux jonchaient le sol brûlant. Michael se retournait vers Pluie pour lui demander ce qui se passait au sol, mais il se rendait compte que sa contemplation avait duré plus longtemps qu'il ne se l'imaginait, car les deux chefs étaient déjà en train de parler et semblaient même se disputer. Le son lui revenait, comme si un démiurge venait d'appuyer sur le bouton d'une télécommande, et il entendait distinctement leurs paroles. « Vous ne pouvez pas prendre le pauvre à 10 », répétait inlassablement la vieille femme. « Il ne vous appartient pas de vous opposer aux décisions de l'Union », disait Richards. La colère faisait trembler les lignes des tatouages de Pluie, et Michael, dont le sentiment dominant était une intense curiosité, s'approchait d'elle pour observer son bras de plus près. Elle répétait encore « Le Quo Vadis est à nous, vous n'avez pas le droit ». Et Michael, béat d'admiration, se rendait compte que les lignes bleues des tatouages frémissaient comme des rivières sur sa peau. Tout à coup, ils en venaient aux mains, et Michael avait tout d'abord peur pour la vieille femme, que son grand âge rendait presque friable. Le capitaine Richards l'étranglait, et les lignes des tatouages ressortaient maintenant comme des veines monstrueusement exorbitées. Michael suivait le déroulement du combat à distance, comme s'il lui était impossible d'y prendre part. Il voyait les mains de Richards se serrer sur le cou de la vieille femme, et au bout d'un moment qui lui parut très long et très pénible, il se rendit compte que ce n'était pas la vieille femme qui suffoquait, mais Richards lui-même. Plus ses mains meurtrières s'agrippaient au cou flétri, plus il devenait rouge lui-même, et lorsqu'enfin la lutte cessa, ce fut lui qui retomba, mort, sur le côté. Pluie lui donnait un coup de pied et ouvrait une trappe. Michael, interdit, se penchait pour voir le corps de Richards tourbillonner dans l'air avant de s'échouer parmi des ossements de vache et de cheval. L'instant d'après, Michael était en bas, comme s'il avait accompagné le corps de Richards dans sa chute, et il levait les yeux vers le ciel. Le rêve s'achevait par la vision sublime du Quo Vadis, flottant à environ 500 mètres d'altitude. L'étrange vaisseau gris anthracite reflétait les lumières chatoyantes d'un coucher de soleil et voguait, paisiblement, dans l'air du soir. Quand Michael ouvrit les yeux, c'était le même ciel que dans son rêve, et il se demanda s'il n'avait pas soulevé les paupières dans son sommeil. Il n'y avait pas de vaisseau anthracite dans l'air du soir, juste quelques nuages noirs dans un ciel vierge, ivre de sa débauche de couleurs. Michael se souleva un peu et but encore un quart de litre du liquide nutritif. Son esprit, pour la première fois depuis qu'il avait repris conscience, lui paraissait alerte et fonctionnel. Et la question, qu'il ne s'était pas posée depuis toutes ces heures, s'imposa à son esprit avec acuité. Elle se découpait, sur fond de songes et de rêveries, avec une netteté tranchante. Que s'était-il passé? À force de repasser les événements dans l'ordre, il parvenait à la conclusion que Philippe Reda avait dû faire exploser la sonde. Cela était cohérent avec son désir de mort et avec ses réponses à double sens. L'heure du destin qui sonnait, le legs de la vie. Michael se demandait même comment cette évidence ne lui avait pas sauté aux yeux plus tôt. Mais s'il était honnête, il savait bien pourquoi. Son inconscient avait pris le relais. S'il avait eu une conscience claire des intentions de Reda, il aurait forcément essayé de le convaincre de ne pas les mettre à exécution, et cela l'aurait empêché de prendre la fuite. Cela l'aurait empêché d'atterrir ici, sur l'organe, et d'avoir un espoir de retrouver foudre. Alors, il avait été plus simple de mettre un voile noir sur cette évidence, de l'oblitérer pendant l'instant crucial. Michael avait agi sans aucun dilemme, sans scrupule et sans remords. Il avait agi sans réfléchir, et cette inconscience, cette irréflexion l'avait sauvé, en coûtant la vie à tout l'équipage. Michael frissonna longuement, sans savoir si c'était à cause du froid ou à cause de cette prise de conscience qui éclairait les événements d'une lueur glaciale. S'il était resté à bord, que se serait-il passé? Peut-être eût-il réussi à empêcher Reda de commettre l'irréparable, peut-être. Mais, dans ce cas, le capitaine Richards serait allé jusqu'au bout de la procédure 43 bis, et au lieu des 161 morts, les 169 passagers, moins Touré et lui, et les 6 hommes que Ido avait déjà tués dans le hangar, il y en aurait probablement eu beaucoup plus sur l'organe. Un bombardement orbital faisait bien davantage que 160 morts, cela du moins il en était certain. Il avait l'impression de cheminer par la pensée dans des hauteurs vertigineuses. Si l'on en jugeait par les conséquences, il avait eu raison d'agir ainsi. Car si l'on posait que les vies des habitants de l'organe valaient celles de l'équipage de la sonde, son acte avait probablement sauvé des vies. Si l'on en jugeait par les principes qui avaient régi son action, en revanche, tout devenait plus flou. N'avait-il pas agi en suivant l'inclination de son cœur, de son désir, au mépris de tout raisonnement logique ou moral? Ce qui le sauvait peut-être était qu'il n'avait jamais douté que le bombardement aurait lieu. En fait, il s'apprêtait à partager le destin de Foudre, quel qu'il pût être. Il n'avait pas agi consciemment dans son intérêt, car il était persuadé au moment de partir que c'était l'organe et non la sonde qui était en danger. C'était un acte irrationnel, qui suivait une logique inconsciente et interne, plus puissante que la raison. C'était un acte au-delà de la morale, qui engageait sa vie, sa mort et le sens de son existence d'une manière qui échappait même au langage. Il avait fui comme il était tombé amoureux, de manière radicale, c'est-à-dire à la racine même de son être. Qu'est-ce que cela faisait de lui? Un innocent ou un coupable? Il comprit que cette question ne serait jamais tranchée, et qu'elle resterait béante, comme une blessure ouverte, dans son cœur, pendant toute sa vie. Il fut assailli par le souvenir des hommes et des femmes de l'équipage, avec qui il avait travaillé, mangé, et parfois discuté, pendant toutes ces années. Richards, Malkin, Reda, Ido, Salama, Saint-Louis, Rodriguez, Isla Brown, Azuri, Fabre, Wilson, Norca, Glux, Chain, Cinnamon, Volberg, Lacombe, tous les autres. Leurs particules élémentaires avaient été dispersées à des centaines de kilomètres à la ronde. Ils étaient redevenus oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium, phosphore et soufre. Et lui, Michael, méritait peut-être de les rejoindre. La vie pourtant palpitait en lui. Il avait besoin de vider sa vessie, et cette opération et la douleur à la jambe qu'elle lui coûta l'épuisèrent. Il se pelotonna à nouveau dans sa couverture de survie, les yeux plongés dans les étoiles qui ne lui avaient jamais paru aussi belles. Des parfums organiques parvenaient à ses narines, des parfums d'herbe, de terre, de pierre chauffée par le soleil et mouillée par la rosée, des parfums de forêt et de points d'eau qui l'enivraient comme un vin bienfaisant. Il n'avait plus qu'à attendre, maintenant. La mort ou la vie, cela ne lui appartenait plus d'en décider. Son destin reposait entre les mains de Foudre, et cette pensée lui procurait une immense paix. Il n'avait plus rien d'autre à faire que de se laisser aller, bercé par les murmures des feuilles, caressé par la brise, enveloppé de nuit. Fleur ne pouvait s'arracher à la contemplation de forêt. La jeune femme, déjà si étrange en elle-même, était plongée dans une concentration proche de la transe, que Fleur n'avait jamais vue que chez les clés. Après l'explosion de la sonde, elle avait fait une sorte de malaise et eut une crise de sanglots secs, sans larmes. Fleur avait du mal à comprendre pourquoi, car ces gens de la sonde désiraient la pendre, d'après ce qu'elle avait compris. Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle n'arrivait pas à verser de larmes. Mais cette explosion l'avait ébranlée de manière inattendue. Forêt était douce et n'était pas du genre à se réjouir de la mort de ses ennemis. D'ailleurs, quand Fleur y songeait, il était probable que tous ces hommes et toutes ces femmes qui étaient à bord n'aient pas été ses ennemis. Il était même probable que Forêt, du temps qu'elle s'appelait Michel, se soit fait de nombreux amis parmi l'équipage, car les qualités qui la faisaient aimer dans le clan de l'orage étaient universelles et devaient l'avoir fait aimer dans la sonde. Forêt avait demandé de quoi dessiner, sur la feuille la plus grande possible. Fleur avait dû demander au maître d'école et avait ramené aussi à sa demande des pinceaux de toutes les tailles et des peintures de toutes les couleurs. Et dans un effort presque compulsif, Forêt était maintenant en train de réaliser la plus étrange peinture que Fleur eût jamais vue. Au début, elle avait tracé avec un crayon léger une sorte de quadrillage, puis elle avait compté des choses à mi-voix, en remuant à peine les lèvres, et avait commencé à tracer sur le quadrillage, en comptant les carreaux, des lignes plus épaisses, certaines rectilignes, d'autres courbes. Il avait fallu du temps pour que Fleur comprenne qu'elle était en train de réaliser la carte d'un vaisseau. Et puis, au fil des heures, la carte s'était enrichie. Forêt écrivait des choses, en tout petit, dans certaines zones. Quartier A, coursif central, messe des officiers, passerelle, pont supérieur. Et dans certains petits carrés alignés, elle écrivait ce qui semblait être des noms. Rodriguez, Azuri, Salama, Fabre. Michel était en train de dessiner, avec toute la force de sa mémoire cartographique, le plan de la sonde. C'était tout ce qu'elle avait trouvé à faire, tout ce qui comblait le vide immense qu'elle avait ressenti en la voyant exploser. Un vide semblable à un siphon qui menaçait de tout absorber dans son tourbillon. Elle n'en était qu'au premier niveau et savait déjà qu'après cette première carte, elle réaliserait la carte de tous les autres niveaux et également à une autre échelle la carte de toutes les salles dont elle pourrait se souvenir. Elle y passerait probablement plusieurs mois, mais ce travail absurde lui paraissait absolument nécessaire. Un jour, si elle parvenait à acquérir les compétences et les matériaux nécessaires, elle essaierait aussi d'en réaliser une maquette. Cette tâche s'imposait à elle. C'était son monument aux morts. Elle était en train de recalculer l'air de la salle de conférence lorsque Fleur la tira doucement par le bras. Elle s'apprêtait à lui demander de ne pas la déranger quand elle aperçut à ses côtés une jeune femme qu'elle ne connaissait pas et qui la regardait fiévreusement. Ce regard lui fit perdre sa concentration. Elle le sentit, tout comme on sent qu'on perd l'équilibre, et elle le regretta un instant avant d'être tout à fait disponible pour le monde extérieur. Ce visage ne lui était pas familier. La jeune femme devait être très belle en temps normal, mais elle avait l'air malade, ou plus exactement harassée par quelque épreuve récente. Sa peau sur les bras, les mains et même la tempe semblait irritée et légèrement enflammée. Elle dégageait une odeur pharmaceutique, et une expression ardente animait son visage. Elle était possédée d'un démon au moins aussi impérieux que son démon des cartes. « Bonjour, » dit Michel quand elle fut tout à fait sortie de sa transe. « Bonjour, » dit la jeune femme. « Je m'appelle Foudre et j'ai reçu ce message de Michael Strauss. » Michel sentit comme une décharge d'adrénaline agiter son cœur. Michael Strauss était un homme si sensible et si compréhensif. Elle l'avait toujours apprécié malgré sa légère distance. « N'était-il pas à bord de la sonde ?» demanda Michel. « Non, regardez. » Michel saisit, avec beaucoup d'étonnement, le transmetteur et lut le message qui s'affichait. Un sourire immense éclaira son visage. « C'est vrai que vous connaissez bien la géographie de l'organe ?» demanda Foudre avec appréhension. « Je suis cartographe, » dit Michel, en montrant les plans qu'elle était en train de dessiner. « J'ai travaillé plusieurs semaines sur la géographie physique de l'organe. » « Pensez-vous que ces indications vous suffiront ?»« Il le faut, n'est-ce pas ? Nous n'allons quand même pas laisser mourir Michael Strauss. » Au bout de toutes ces heures, de ces nuits illuminées d'étoiles, de ces crépuscules, de ces soleils ardents, de ces aubes fraîches, de ces réveils identiques, le temps s'était dilaté. Michael ne savait plus à quand remontait la dernière fois qu'il avait bu. Il y avait un peu de rosée, et parfois quelques courtes averses. Mais le liquide nutritif s'était terminé il y avait déjà un long moment, et le temps tel qu'il l'avait connu auparavant, avec sa jolie flèche bien droite et son ordre de succession mesurable, s'était achevé avec lui. À mesure que son corps devenait plus lourd, plus faible, plus englué dans l'immobile, le temps était sorti de ses gonds. Le matin pouvait succéder au soir sans qu'il y ait de nuit. L'aube et le crépuscule pouvaient s'enchaîner, indéfiniment. Il n'y avait pas que le temps d'ailleurs qui soit sorti de ses gonds. La réalité, la mémoire et l'imagination, qui avaient jadis une frontière si claire, si nettement tracée à la plume, d'un beau trait plein, ne formaient plus qu'un seul univers flou, comme un tableau mental où les couleurs bavaient, où les souvenirs ne se distinguaient pas des visions. Les oiseaux dans le ciel volaient dans tous les sens, planaient, et se posait parfois si près de Michael qu'il pouvait, en souriant, contempler le détail merveilleux de leurs plumes, la couleur de leur bec, la forme de leurs pattes. Mais les circonvolutions du plumage se muaient insensiblement en des nébuleuses en mouvement, et la peau écailleuse des pattes devenait la texture synthétique des rideaux de la sonde. Des visages apparaissaient dans des halos, le visage de Foudre, celui d'Egon Richards, celui de Philippe Reda, celui de l'ingénieur Ido tout sanglant, et celui de Foudre à nouveau. Celui de Foudre était celui qui revenait le plus souvent. Et la seule pensée distincte qui lui resta était qu'il l'attendait. Il l'attendait, et il attendait la mort, indifféremment, calmement, et toutes les deux à la fois. Elles étaient en chemin, toutes les deux, et il ne savait pas laquelle arriverait la première. Peut-être serait-ce l'une avec le visage de l'autre, la mort avec le visage de cette jeune femme qui logeait sous ses paupières, au fond de son cœur et au bord de ses lèvres. Elle arriva au point du jour. Michael ne pouvait plus ouvrir les yeux depuis quelque temps, mais il percevait encore les variations de lumière et ressentait la douceur des rayons du matin sur sa peau aride. Il imaginait les ciels, les oiseaux et les feuillages qu'il ne pouvait plus voir. Et il entendait aussi. C'est par sa voix qu'il sut sa présence, longtemps avant qu'elle ne soit là. Sa voix humaine avait un timbre si pur qu'il se demanda s'il y avait au monde un chant plus beau. Elle disait des mots qu'il ne comprenait pas, à quelqu'un qu'il n'entendait pas. Et puis, il fut enveloppé de sa présence. C'était encore plus doux et plus réconfortant que les rayons du matin. Elle le touchait, lui soulevait la tête, l'inondait de son parfum, lui entr'ouvrait les lèvres, auscultait son corps, faisait couler quelque chose dans sa bouche. Dieu qu'il avait soif! L'eau qui coulait dans son corps l'irriguait comme une terre craquelée, détendait sa peau desséchée, dépliait ses organes comprimés et les ramenait à la vie. C'était douloureux, mais d'une douleur exquise. Ses paupières de plomb s'entr'ouvrirent, et, à travers leurs fentes minuscules, comme à travers un hublot sur le point de s'ouvrir, toute la lumière du monde s'engouffra en lui, et le visage de Foudre le pénétra tout entier. Maintenant, l'organe ne lui serait plus jamais extérieur.